France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque semaine, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité. Aujourd'hui, notamment les propos d'Emmanuel Macron qui exhorte les pays européens à ne plus être lâches face à Vladimir Poutine. Et puis, pour le débat, on pousse la porte des écoles et plus encore celle des collèges, où selon notre invité, la promesse d'égalité républicaine se heurte à la réalité de ce qu'il appelle le séparatisme. Comment briser le ghetto scolaire ? On posera la question au sociologue, professeur de sociologie émérite à l'université Bordeaux 2, directeur d'études à l'EHESS, François Dubé, qui publie avec l'ancienne ministre de l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, le ghetto scolaire au seuil. Mais pour l'instant, place au duel.
Le grand face-à-face... Thomas Snegaroff sur France Inter.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. Le fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Et il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Natacha, nous avons été lâches et nous ne devons plus l'être face à Vladimir Poutine. Est-ce que c'est courageux de dire ça ou est-ce que c'est déraisonnable ?
Alors, je suis assez gênée par le vocabulaire qui se développe ces derniers temps, non seulement dans la bouche d'Emmanuel Macron, mais dans la bouche de beaucoup sur la question justement de l'abus des termes lâches, du terme munichois. C'est-à-dire que alors, je ne mets pas sur le même plan Emmanuel Macron et les commentateurs. Chez les commentateurs qui sont sur un plateau de télévision ou derrière un bureau, venir exhorter à la guerre, à quelque chose d'assez indécent et que je trouve même consternant. Chez Emmanuel Macron, il y a autre chose. On a vu une montée en puissance du vocabulaire de la part du président de la République, puisqu'il a parlé du fait qu'il fallait soutenir l'Ukraine quoi qu'il en coûte, donc en reprenant ce terme qui devient une tarte à la crème du vocabulaire politique. Il a parlé d'absence, enfin de soutien sans limite. Et il y a là quelque chose qui pose problème. D'abord parce que ce qu'on a vu dans les deux dernières semaines de la part d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de reproche public adressé à ses alliés européens, ce qui ne me semble pas la meilleure manière de penser la riposte à Vladimir Poutine. Et on a bien vu que sous couvert, on en a parlé la semaine dernière, sous couvert d'ambiguïté stratégique, en fait, Emmanuel Macron a obligé le reste de l'Europe à sortir de l'ambiguïté stratégique, ce qui aboutit au contraire de ce qu'il prétendait vouloir faire. Et ce terme de lâcheté va dans le même sens. Qui a été lâche ? La question n'est pas d'être lâche, la question est de réfléchir aux intérêts de l'Europe, de comprendre qu'il y a eu des erreurs politiques qui ont été faites, que notamment pendant des décennies, les Européens, de diverses manières, ont affaibli leur force de leur force militaire, d'abord en ne réfléchissant jamais en termes de puissance, jamais en termes d'indépendance, et que c'est tout ça que nous payons. C'est pas une question de lâcheté, c'est une question d'idéologie. Et lui-même trouvait cette Europe-là absolument formidable. Donc maintenant, jouer le chef de guerre en usant et en abusant d'images virilistes ne me semble pas la meilleure manière de répondre, d'autant plus que ça amplifie le décalage entre les mots et les faits. C'est-à-dire que les Européens sont faibles et fragiles. Il faut en avoir conscience et il faut donc agir intelligemment en tenant compte de cela. Parce que sinon, on aboutit qu'à une espèce d'escalade verbale avec Vladimir Poutine qui se paye le luxe de menacer une fois de plus d'utiliser l'arme nucléaire, d'expliquer que la France fait un pas de plus vers la co-belligérance. C'est-à-dire qu'on lui donne l'occasion de réagir et de montrer sa force. À mon avis, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Il faut agir, au contraire, avec, disons, une forme d'unité avec les Européens, donc avec une forme d'humilité de la part de la France, avec à l'esprit les questions extrêmement préoccupantes du fait que l'Ukraine, l'armée ukrainienne est dans une position difficile et risque de s'effondrer. On a publié cette semaine dans Marianne un article qui rend compte de rapports de militaires français qui sont extrêmement inquiétants. Et donc, il faut ramener les États-Unis à la table, c'est-à-dire les forcer à prendre leurs responsabilités. Et ça, les Européens ne pourront le faire que s'ils sont unis. Pas si on joue au chef de guerre en traitant les autres de lâches.
Natacha explique, en gros, sans vouloir détourner votre pensée, que si on n'agit pas, c'est pas parce qu'on est lâche, mais c'est parce qu'on est faible et pas assez uni. Gilles, est-ce que c'est aussi votre point de vue ?
Alors, on a sur ce sujet de manière récurrente une divergence de sensibilité avec, avec Natacha, donc allons-y. Je mets à part, mais je le cite quand même, la lecture politique de ce qui se passe. Emmanuel Macron a reçu cette semaine les chefs de parti. Oui. Il y aura la semaine prochaine un débat à l'Assemblée nationale.
Mardi et mercredi au Sénat.
Et donc, on ne peut pas ne pas avoir aussi une lecture politique d'un événement politique et ne pas voir que Emmanuel Macron, à la veille des élections, pour le dire d'une phrase, veut polariser, notamment avec le Rassemblement national, pour bipolariser, c'est-à-dire pour faire en sorte que il y ait une sorte de réflexe de vote utile comme il y en a pour l'élection présidentielle à l'occasion de ces élections. Je ferme cette parenthèse parce que l'essentiel n'est pas là. Si on est sur la question géopolitique, en fait, je pense que la divergence ou la différence de sensibilité avec Natacha, elle tient sans doute déjà à l'analyse de départ. Pour moi, il y a trois points. Le premier est que la responsabilité de Vladimir Poutine dans le déclenchement de cette guerre est écrasante. Et c'est vrai, de l'annexion de la Crimée jusqu'à l'invasion de l'Ukraine en février dernier, et je crois qu'il n'y a aucune justification qui me semble recevable. Le deuxième point, c'est que il y a aujourd'hui une menace réelle de la Russie. C'est vrai, évidemment, contre l'Ukraine, avec laquelle on partage à la fois, disons, des valeurs démocratiques et puis cette idée d'une sécurité juridique autour du respect des frontières. Mais au-delà de l'Ukraine, pour l'Europe et donc pour la France, parce que la victoire de Poutine serait comprise par lui comme l'autorisation d'aller plus loin. Ça ne viendrait en réalité que confirmer ce qu'il répète toujours, que nous, Européens, nous, Occidentaux, n'avons pas d'autre combat que notre confort matériel. Bon. Et donc, ça, c'est un élément qui est très important. Au-delà même du fait que la Russie essaye déjà aujourd'hui, par ses cyberattaques, par ses actions sur les réseaux sociaux, de déstabiliser notre démocratie, je crois que c'est vraiment nos intérêts qui sont en jeu dans cette affaire. Et puis, troisième point sur l'analyse, c'est que beaucoup, depuis 10 ans, ont fait preuve de complaisance envers la Russie de Vladimir Poutine. Certains, par fascination d'un nationalisme autoritaire comme le RN, d'autres par une sorte de réflexe pavlovien anti-américain comme LFI, d'autres encore, y compris Emmanuel Macron au début, par une sorte d'hubris, pensant qu'ils allaient domestiquer Vladimir Poutine. Je pense que c'était à chaque fois une fausse route. Donc, si on partage, on peut ne pas partager ces trois points-là, la question est, dans cette situation, que fait-on ? Il y a d'abord le concret. Et l'essentiel est là, c'est comment on fait pour aider davantage, pour aider plus vite, pour tenir nos promesses, les Ukrainiens. Ça, c'est des questions à la fois d'ordre financier, d'ordre industriel, et c'est là où l'Europe pêche. Et puis, il y a une deuxième dimension, et c'est là-dessus que se noue le débat ces derniers jours, qui est, disons, une dimension plus de guerre psychologique. Est-ce qu'il faut durcir le ton, avoir une stratégie moins lisible ? C'est cette fameuse formule d'ambiguïté stratégique qui est celle, en réalité, que nous avons pour la dissuasion nucléaire. Je pense que l'idée se défend. Après, on peut avoir des désaccords, et je les avais exprimés la semaine dernière, sur la manière, sur l'exécution, sur la manière dont Emmanuel Macron le fait. Je pense que le moment était mal choisi avec les chefs d'État et de gouvernement, que les mots n'étaient pas nécessairement bien calibrés. Mais être moins lisible dans cette situation, ça ne me semble pas complètement idiot. Alors, est-ce que c'est inquiétant ? Évidemment que ça peut être inquiétant dès lors que il y a de l'incertitude. La question, c'est est-ce que c'est la situation qui est inquiétante ? C'est oui, c'est la situation qui est inquiétante et pas les déclarations. Et la vraie question, c'est est-ce que c'est plus efficace ? Eh bien, peut-être.
Natacha, dans cette situation inquiétante, est-ce qu'il faut jouer de l'ambiguïté stratégique dont Gilles parlait à l'instant, ou est-ce qu'il faut être plus apaisant avec Vladimir Poutine?
Alors, je vais suivre point par point les éléments qu'a listé Gilles. Premier point, Gilles a parlé de la dimension politique de la chose. Je me l'étais interdit parce que je trouve ça absolument abject, en fait, d'utiliser une situation aussi grave pour une campagne électorale. Et la phrase...
Rien ne dit qu'il le fait, ça c'est votre
la
analyse.
La phrase des conseillers... Ben, je ne fais que reprendre ce que disait Gilles, qui lui ne l'a pas exclu. Moi, je m'étais interdit d'envisager même cela, parce que je trouverais ça inacceptable. En revanche, et c'est pour ça que je ne veux pas croire qu'Emmanuel Macron soit dans cette stratégie-là. En revanche, il y a autour de lui des gens qui le sont et qui l'affichent. Certains de ses conseillers ont commenté la rencontre en disant « on verra qui est pour l'Ukraine et qui est pour la Russie », ce qui est affligeant, en fait, comme façon de résumer, comme si c'était à ça que se résumaient les choses. Pour l'Ukraine ou pour la Russie. Comme s'il n'y avait pas différentes manières d'être pour l'Ukraine et que c'est le but des discussions avec les oppositions. C'est ça, en fait. Bon, bref, ça, c'est ce point-là, je l'écarte. Responsabilité écrasante de Vladimir Poutine, nous sommes entièrement d'accord. C'est-à-dire que j'estime qu'à partir du moment où il y a une agression contre un pays et un non-respect du droit international, il y a une responsabilité qui, j'allais dire, efface l'histoire. Mais pour autant, cette histoire existe et on ne peut pas la nier. C'est-à-dire que si on veut raconter l'histoire de 1991 à 2014, il faut la raconter en tenant compte de l'ensemble des éléments. Et je pense que, par exemple, la façon dont Brzezinski racontait cette histoire-là, c'est-à-dire la stratégie américaine face à l'effondrement de l'URSS et face à une Russie déliquescente, me semble importante à comprendre. Mais de fait, à partir du moment où il y a agression d'un voisin, il n'y a qu'une seule responsabilité. Nous sommes d'accord, donc il est hors de question d'exonérer Vladimir Poutine.
Dont acte.
Il y a eu, de la part de certains en France, une complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine. Thierry Mariani en est l'incarnation absolue. Il y a des gens, oui, à droite, on se souvient de propos d'Éric Zemmour ou de Marion Maréchal, il y a des gens qui sont fascinés par la force virile et brutale. Ça, là aussi, nous sommes d'accord. En revanche, je pense que quand un Nicolas Sarkozy, par exemple, essayait avec Angela Merkel de mettre en avant ce qu'il appelait une architecture de sécurité en Europe, ce n'était pas de la complaisance vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'était une bonne compréhension des intérêts de l'Europe qui ne sont pas les mêmes que ceux des Américains, parce que nous, Européens, nous sommes voisins de la Russie. Et que on a beau ne pas aimer le régime de Vladimir Poutine, et même s'en méfier terriblement, il faut tenir compte de la géographie. Et il est très facile de la part des Américains de construire une vision en noir et blanc avec le camp du bien et l'axe du mal. Ça ne leur coûte pas grand-chose à distance. Nous, nous sommes obligés justement de réfléchir en termes de, on va dire, de protection de nos intérêts. Et c'est, je pense, ce que les Européens n'ont pas réussi à faire du fait de la politique américaine.
C'est pas plutôt l'inverse? On dit pas parfois que on a été trop dans cette réelle politique, on a trop lié d'intérêts économiques avec la Russie qui fait qu'on a eu du mal à s'opposer à Poutine après l'attaque de l'Ukraine.
On peut en débattre. Je pense conjointement que l'Allemagne s'est mise dans les mains de la Russie. Et à l'époque, tout le monde trouvait le modèle allemand absolument génial, nous expliquait que c'était formidable, et bien peu considéraient que cette espèce de triangle qu'avaient construit Gerhard Schröder et Angela Merkel, c'est-à-dire le gaz russe, le parapluie américain et les exportations vers la Chine, était quelque chose d'assez malsain et qui ne servait pas les intérêts européens. Voilà, tout le monde trouvait ça génial et tout à coup, on se retourne. Donc moi, je pense que cette dépendance était malsaine parce que toute forme de dépendance est malsaine, mais qu'en revanche, réfléchir en termes d'intérêts européens et en considérant qu'ils ne sont pas exactement les mêmes que les intérêts américains, c'est une nécessité. Concrètement, où nous en sommes aujourd'hui ? Concrètement, nous en sommes à un point où, en effet, sur le front, ça se passe mal. Et il faut absolument que les Européens fournissent les armes dont les Ukrainiens ont besoin. Pourquoi ? Parce qu'on ne fera pas, on ne terminera pas cette guerre sans établir un rapport de force qui permette d'aborder cette fin dans de bonnes conditions. Donc les Européens doivent évidemment aider l'Ukraine et l'aider en tenant leurs promesses, ce qu'ils ne font pas. Derrière, en revanche, on ne va pas aller jusqu'à Moscou pour détruire Vladimir Poutine. Donc, il faudra bien, à un moment, discuter. Il n'y aura pas de fin militaire.
J'entends votre divergence en géopolitique. On distingue les libéraux, ceux qui considèrent que, finalement, les relations internationales peuvent s'apaiser, qu'il peut y avoir derrière chaque adversaire un allié potentiel, et les réalistes, qui considèrent davantage que derrière chaque partenaire, il y a potentiellement un ennemi. Est-ce que dans ce débat entre vous deux, Natacha est davantage réaliste et Gilles davantage libéral, ou bien c'est l'inverse qui se joue entre vous deux ?
Franchement, je ne...
Qui est le réaliste, là ?
Ouais, mais c'est évidemment que c'est ça tout le débat. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé d'être le réaliste. Bon, et donc, si on avait la réponse, les choses seraient évidemment beaucoup plus simples.
Mais comment répondez-vous à cette question de réel politique que pose Natacha, et notamment sur le fait que nous n'avons pas les mêmes enjeux que les Américains ? Or, selon elle, on est un peu aveuglé, titre du livre de Sylvie Kaufmann, par ces enjeux partagés.
Nous n'avons pas les mêmes enjeux que les Américains. Il faut reconnaître que c'est grâce aux Américains, principalement, que l'Ukraine tient aujourd'hui, que c'est grâce à la présence américaine, à la demande de l'Ukraine, que les Américains, à la différence des Européens, ont vu ce qui était en train de se passer et l'invasion qui était en train de se préparer, et que c'est grâce à ça que les Ukrainiens ont pu aussi réagir et réagir aussi rapidement. Donc, je pense qu'il faut être balancé quand on parle des États-Unis. Après, on n'a évidemment pas la même position géographique, on n'a pas exactement les mêmes intérêts que les Européens et vocation à bâtir une architecture stratégique, y compris avec la Russie. Évidemment, oui. Mais lorsque je parlais de ces responsabilités passées, notamment de Nicolas Sarkozy, c'est pas à ça que je faisais allusion. C'était pour bâtir une architecture de sécurité avec les Russes, on n'est pas obligé de leur vendre des armes. Or, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Et je me souviens des réactions qui ont été les siennes lorsque François Hollande a, après l'invasion en Ukraine, arrêté la vente des Mistral à la Russie, où Nicolas Sarkozy s'était indigné. Donc c'est ce
pas
à quoi...
que Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, toute la classe politique s'était levée contre cette décision idiote de la part de François Hollande, disait-on à l'époque.
Oui, mais j'avais déjà évoqué la complaisance pour différentes raisons, et de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Là, il y avait en plus celle de Nicolas Sarkozy. Après, je termine par là. Il n'y aura pas de victoire totale de l'un des camps, et personne n'envisage même qu'il faille aller jusqu'à Moscou. La question est celle du rapport de force. Là-dedans, il y a les éléments concrets et il y a aussi les éléments de guerre psychologique que j'évoquais.
Natacha, vous voulez répondre ?
D'abord, gardons-nous de dire que parce que la situation est telle aujourd'hui, elle était la même en 2014, en 2008, en 2000, quand Vladimir Poutine est arrivé. C'est-à-dire que, justement, il y a une évolution de la situation. Ça, et je pense qu'il faut en tenir compte. De même que depuis le déclenchement de la guerre, il y a une évolution de la situation. Et dire qu'aujourd'hui, on doit envoyer des avions, par exemple, ne signifie pas qu'il aurait fallu le faire dès le début. Oui. Les choses sont plus complexes que ça.
Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs.
Voilà. Deuxième point, je pense qu'il y a un élément important qui est ce que j'ai appelé la responsabilité historique des États-Unis. C'est-à-dire que, oui, les États-Unis ont aidé l'Ukraine, c'est bien le moins. Ils ont poussé depuis des années pour que l'Ukraine intègre le camp dit occidental et l'OTAN. C'était même le point de désaccord avec Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Et les États-Unis, aujourd'hui, sont en train de se désengager, le risque étant pour les Européens, en gros, de payer la facture militaire, la facture économique, et donc de se retrouver, en effet, obligés de suppléer les États-Unis, ce qui serait profondément grave, parce que ça amputerait l'avenir des Européens d'une façon tragique.
Le grand face-à-face, le duel.
C'est la première audience de cette chambre spéciale dédiée aux contentieux émergents autour de la responsabilité des entreprises. Nous avons bien conscience de la grande attente des praticiens et des parties prenantes et du besoin de clarifier la jurisprudence autour de la loi sur le devoir de vigilance. C'est pas moi qui parle, c'est Marie-Christine Hébard-Pageot, présidente de la chambre spéciale dédiée à la responsabilité sociale des entreprises. C'était le 5 mars, Total Energy, EDF et Suez, assignés par des associations et des collectivités pour non-respect de leurs obligations en matière de vigilance sur les droits humains et environnementaux. C'est nouveau, Gilles, mais est-ce que c'est révolutionnaire ?
Assez. C'est assez révolutionnaire. Peut-être pour comprendre de quoi il s'agit, il faut repartir d'un peu plus loin. On a, depuis une trentaine d'années, une évolution du capitalisme contemporain dans lequel on a une mondialisation de plus en plus forte de la chaîne des valeurs, de la chaîne de valeur, une concentration des grandes multinationales sur ce qu'on appelle leur core business, sur leur cœur de métier, et donc le développement, et c'est ça l'élément très important, la multiplication de la sous-traitance et des filiales. Le problème, c'est que dans l'application du droit, on est souvent exigeant avec les groupes et peu regardant avec ce qui se passe après sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et il y a eu un événement symptomatique et dramatique de ça, il y a une dizaine d'années, ce qu'on appelle le Rana Plaza, où au Bangladesh, il y a plus de 1000 ouvriers du textile, travailleurs sous-traitants des grandes entreprises de la mode, qui sont morts dans une explosion. Et la solution qui a été trouvée est une solution française. C'est pas toujours le cas. L'initiative a été une initiative française. C'est une des dernières lois qui a été adoptée à la fin du quinquennat de François Hollande, à l'initiative d'un député qui est un des grands députés français, qui est un agriculteur, un intellectuel et un humaniste, qui s'appelle Dominique Potier, qui est un député de Meurthe-et-Moselle, qui est un député socialiste, et qui, avec des associations, des intellectuels, a pensé cette loi sur le devoir de vigilance. C'est quoi, de manière très simple, la loi sur le devoir de vigilance? C'est que les multinationales ont le devoir d'avoir des plans de prévention sur les risques humains et les risques environnementaux sur la totalité de leur chaîne de valeur. C'est-à-dire non seulement sur ce qu'elles font, mais sur ce que font toute la chaîne de leurs sous-traitants. Et c'est ce en quoi le texte est révolutionnaire. Alors on peut trouver que les modalités devraient aller plus loin. Évidemment que c'est pas difficile, c'est un changement, une domestication potentielle de la mondialisation, et c'est ce en quoi c'est un texte qui peut paraître comme une petite réforme, mais qui est une vraie révolution. Je m'arrête là, mais on peut après quand même dire un mot à la fois de son application concrète, c'est le procès que vous évoquez aujourd'hui, sur lequel l'élément le plus important, au-delà de ce qui va se passer sur les décisions elles-mêmes, c'est le fait qu'il a été décidé de créer une chambre spéciale de la Cour d'appel de Paris qui examinera tous ces contentieux. Et puis l'autre élément, il faudra quand même qu'on en dise un mot, c'est qu'il y a une directive européenne qui a fini par accoucher avec une extrême difficulté, et tout se joue dans les 10 jours qui viennent. Il est minuit moins une, et il y a un risque qu'elle ne soit pas adoptée ou qu'elle soit profondément dénaturée.
À vous écouter, c'est quelque chose de très important. Et Natacha, souvent on parle du traitement médiatique des choses. On en a très 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 peu parlé.
Oui, en effet. Alors je rejoins Gilles sur la description qu'il a faite de ce qu'est cette loi, de la façon dont elle a été portée et de l'intérêt qu'elle a. Après, si on veut aller plus précisément sur le procès qui a lieu et qui touche Total, EDF Mexique, Suez. La remarque que je me suis faite, c'est que je pense qu'il est très bon que les multinationales commencent enfin à rendre des comptes et à rendre des comptes sur ce qu'elles font dans des pays où les gens n'ont pas forcément les moyens de s'opposer. Je regretterais peut-être que cela touche essentiellement des questions de climat, d'action sur le climat, et pas assez des questions
de droits humains.
Total a une autre affaire qui est celle au Yémen, où là, il y a destruction de nappes phréatiques et donc fragilisation des populations locales. Gilles citait le Rana Plaza, c'est-à-dire une exploitation. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir aller. Et sur la question européenne, en revanche, oui, l'inquiétude est grande parce que la directive a été petit à petit vidée de son sens. Et tant que l'Europe n'agira pas en tenant compte aussi du fait que c'est très bien de réguler sur son sol, mais si on importe à côté de pays qui ne respectent rien, ça ne marche pas.
C'est intéressant parce que souvent, Natacha, je vous taquine un peu, vous critiquez l'extraterritorialité, parfois, elle a du bon.
Le grand face-à-face, le duel.
Un jeune interrogé sur 5 ne reconnaît pas une courgette en photo, y voyant un concombre ou une aubergine. Et les 15-24 ans, sans grande surprise, consomment aussi plus de plats transformés. 44% plusieurs fois par semaine, contre 23% dans l'ensemble de la population. Ils fréquentent également plus les chaînes de restauration rapide. 59% y mangent au moins une fois par mois. L'étude montre aussi que malgré une très forte inflation, le volume de vente des chips et des pâtes à tartiner n'a pas baissé. En revanche, les jeunes consomment moins de fruits et de légumes frais, invoquant des produits trop chers et trop difficiles à préparer.
C'est l'heure de déjeuner. On vient d'écouter Agnès Soubiran qui revenait ce matin sur France Inter sur les résultats plutôt inquiétants de l'étude Harris Interactive du jour. Natacha, est-ce que ça vous rend pessimiste sur l'avenir de voir les jeunes à ce point déconnectés de l'alimentation ?
Alors, c'est un enjeu essentiel. Et vous vous souvenez, quand la ministre de la Consommation, Olivia Grégoire, interrogée sur l'inflation, avait évoqué le fait qu'il faudrait des cours de cuisine à l'école, elle s'était fait conspuer et moquer. Je pense qu'elle avait parfaitement raison. Et même plus largement, c'est une culture alimentaire et agricole qui doit être mise en place. Ce sondage est extrêmement drôle. Je passerai sur les...
Drôle ?
Alors, non, drôle. D'abord parce que un jeune sur cinq qui ne reconnaît pas une courgette, je craignais que ce ne fût pire.
Oui, moi, ça m'a plutôt rassuré, en fait.
Oui, exactement. Alors après, il y a des questions ouvertes, questions fermées. C'est-à-dire, si on ne leur avait pas donné, c'était un questionnaire à choix multiple.
Ah oui.
On
leur a dit c'est une banane ou un concombre.
S'il n'y avait pas eu le choix multiple, je ne sais pas si ça aurait été bien. Ce qui m'a fait extrêmement rire, c'est le fait que quand on regarde dans les détails, alors, c'est un jeune sur cinq, donc 20%. C'est 13% en zone rurale, alors que c'est 11% en population nationale. Ça veut dire qu'en zone rurale, on reconnaît moins une courgette.
Ah ouais.
Ce sont les populations les plus riches qui sont à 14%. Donc en fait, quand on est très riche, on a tendance à manger plus de plats transformés et à moins identifier les légumes. Et alors, ce sont les LFI et les LR qui reconnaissent le moins une courgette. Bon, je passe
alors
là-dessus.
Je sais pas quoi en faire,
la question de l'éducation au goût me semble essentiel. Et c'est un travail qu'il va falloir mener parce que ça fait partie des compétences humaines et de futurs citoyens.
Un mot, Gilles, qui doit le mener ce travail ? Parce qu'Olivia Grégoire a lancé Éduquer pour mieux manger, c'est à l'État ou c'est aux parents finalement d'assurer ça ?
Non, je pense que c'est, enfin, je dirais c'est les deux. La question, c'est quelle est la lecture qu'on doit avoir d'un tel sondage. Il y a une première lecture sous l'angle de la décomposition, de la nostalgie, du déclin, tout fout le camp. J'interrogeais, vous souvenez, il y a 15 jours, Éric Orsenna, Julien de Normandie, pour savoir si l'exception alimentaire française perdurait. Il disait, il n'y a plus rien, et c'est les 20% de jeunes qui ne reconnaissent pas la courgette. Moi, je crois qu'il y a une seconde lecture et qui est plutôt celle dans laquelle je m'inscris, c'est qu'on a une fragmentation et une mutation très profonde de notre rapport à l'alimentation. D'abord, on continue à être le pays qui passe le plus de temps à manger et à boire dans le monde. Non, et, avec des différences qui sont absolument considérables. Hein. C'est plus de deux fois plus qu'aux États-Unis. C'est 50% de plus qu'en Inde ou qu'au Royaume-Uni. C'est beaucoup plus qu'en Chine,
vous dites le
Japon.
Le temps à manger ou le temps à manger ensemble ?
Le temps à manger, déjà.
D'accord. Ah ouais, donc, peut-être on mâche plus que les Américains.
Mais
alors.
Beaucoup le temps à manger à table et le temps à manger à table ensemble. Donc, tout ne se défait pas. Deuxième élément, on a vécu une révolution silencieuse en 50 ans. Il y a un chiffre qui l'illustre bien, alors que c'était hier la journée mondiale des femmes. Tout le monde cuisine.
Des droits des femmes.
Des droits des femmes. Quand on dit tout le monde cuisine, ça veut dire que les hommes cuisine aussi, c'est un changement. Alors, on n'a pas les proportions exactes du temps passé par les uns et par les autres. Troisièmement, on vit une mutation profonde, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une transition alimentaire, comme il y a une transition écologique, où il y a une partie de la population pour laquelle la préoccupation d'une alimentation saine et durable est beaucoup plus forte qu'auparavant. Et on a publié, la Fondation Jean-Jaurès a publié il y a un an un rapport qui était absolument remarquable de Guéna Elgo, qui est la directrice de l'OPSOCO, de l'Observatoire de la Consommation, qui s'appelle La France à Table, dans lequel, à partir d'une enquête, était dressée une typologie de notre rapport à l'alimentation. Et on voyait qu'il y avait, en gros, 20% des Français qui se tenaient à l'écart, souvent pour des raisons sociales de cette transition, qui avait un gros tiers qui en était largement indifférent, et puis près d'une moitié qui, sous une forme différente, était engagée. Et donc, il se passe des choses et qui ne sont pas que négatives.
Allez, un mot, Natacha, vous vouliez absolument réagir.
L'obésité progresse parce que les aliments ultra transformés sont de plus en plus consommés. Éduquer la jeunesse, c'est la rendre libre vis-à-vis de l'industrie.
De l'éducation du goût à l'éducation tout court, c'est l'heure du débat du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, le débat.
Bonjour François Dubé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie émérite de l'Université Paris 2, directeur d'études à l'EHESS, l'un de nos très grands spécialistes des inégalités et de l'école, les deux étant selon vous étroitement liés. Votre dernier livre, vous le co-signez avec Najat Vallaud-Belkacem, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. C'était sous François Hollande, le titre de votre livre, Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme dans la collection La République des idées au seuil. J'aimerais commencer, François Dubé, avec ces mots de la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui jeudi est revenue sur les groupes de niveau, qui était l'un des outils majeurs du choc des savoirs de Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale. Nicole Belloubet a précisé les contours et les conditions dans lesquelles ces groupes de niveau seront mis en place.
Pour que cette mesure puisse être mise en œuvre avec la plus totale efficacité, c'est-à-dire que pour que les groupes se constituent, il faut bien entendu que les équipes éducatives travaillent ensemble pour qu'elles puissent mettre en place ce dispositif. Donc je le redis devant vous, l'enseignement en maths et en français, en 6e et en 5e, se fera par groupe, en fonction des besoins des élèves par rapport aux compétences qu'ils ont à acquérir.
Les groupes de niveau, les groupes de besoins, c'est un serpent de mer, la solution magique pour réduire les inégalités. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? Est-ce que c'est un bon moyen pour réduire les inégalités dites scolaires ?
Mais c'est difficile de répondre de manière tranchée. En principe, les groupes de niveau creusent les inégalités. La recherche existe depuis très longtemps. Vous mettez les bons ensemble, ils progressent. Les plus faibles progressent beaucoup moins. En plus, se sentent de plus en plus incapables. Donc, si je sépare les élèves, en tout cas, on est au collège, je creuse les écarts. Voilà. Alors, de l'autre côté, évidemment, quand vous êtes dans une école de masse, le mythe de l'homogénéité des élèves disparaît, puisque naguère les élèves étaient homogènes, mais ils étaient très sérieusement triés avant d'entrer au collège ou au lycée, donc c'était assez facile. Et bien évidemment, il va falloir trouver des aménagements pédagogiques, des manières qui consistent à faire la classe ensemble à des élèves qui ont des rythmes et des progressions différentes. Voilà. Je crois que le principe de la séparation est un principe plutôt catastrophique. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai été très très impressionné de voir qu'il y a 10 ans, le monde enseignant, en tout cas dans sa forme syndicale la plus traditionnelle, était favorable aux groupes de niveau parce que l'hétérogénéité c'est difficile, etc.
Oui.
Et que là, 10 ans après, c'est plutôt l'inverse. J'étais très touché quand un enseignant dit « je ne me vois pas dire à un élève de 6e, tu vas chez les faibles, tu vas chez les forts ». J'ajoute, mais ça c'est au fond le réalisme triste des sociologues, c'est qu'on sait qui sera chez les bons et on sait qui sera chez les moins bons.
C'est-à-dire
que socialement, il n'y aura pas, il n'y aura pas photo. Bon, alors, je m'empresse de dire, il n'y aura pas photo en moyenne. Il y aura évidemment des élèves modestes chez les bons et quelques enfants de classe moyenne chez les pas bons, mais dans l'ensemble, le tri scolaire est toujours un tri social.
Justement, à vous lire, les groupes de niveau, ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'on aurait aujourd'hui des établissements de niveau. Est-ce que c'est le cas ?
Ah ben, les inégalités aujourd'hui entre établissements se sont creusées. Alors, c'est un peu compliqué. Si je peux me prendre 3 minutes, c'est que...
Mais allez-y.
Si je regarde la totalité des établissements, la mixité a plutôt progressé, en moyenne.
Depuis quand ?
Depuis qu'on mesure, depuis une quinzaine d'années, grosso modo, ça a plutôt progressé à cause des zones pavillonnaires, des modalités de transport, etc. Mais aux deux extrêmes de la courbe gaussienne, évidemment, ça s'est considérablement ségrégué. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches et de plus en plus entre eux. Et d'ailleurs, le privé, là, joue un rôle pas complètement négligeable. Et de l'autre côté, les établissements les plus pauvres, les plus ségrégés, les plus marginaux, sont de plus en plus pauvres, de plus en plus ségrégés, de plus en plus marginaux. Alors, tout ça s'explique, tout ça est un peu long à comprendre. C'est que vous avez, depuis 40 ans, au fond, une mutation des quartiers populaires. Les quartiers populaires, autrefois, quand je travaillais, moi, il y a très longtemps, au Minguette, par exemple, c'était des quartiers populaires, ouvriers, il y avait des immigrés, mais il y avait des classes moyennes, il y avait de la mixité sociale. Tout ça a été liquidé. Tous ceux qui réussissent, entre guillemets, dans ces quartiers, les quittent et sont remplacés par des gens qui sont encore plus pauvres ou qui viennent d'encore plus loin. Et donc, vous avez... Le mot ghetto qu'on a utilisé, c'est pas pour faire de la provoque. Vous avez des mécanismes de ghettoisation. Et d'ailleurs, les émeutes sont le symptôme un peu triste, quand même, voire tragique, de ce sentiment. C'est-à-dire, on met le feu au collège, on met le feu au centre social, on est entre nous, ça se sépare. Et donc, vous avez des établissements scolaires aujourd'hui qui sont mis en marge par la carte scolaire, par la géographie, et qui sont mises en marche par les choix. C'est-à-dire que tous ceux qui peuvent les fuir, les fuient. Alors, évidemment, dans l'arrondissement parisien où nous sommes, on fuit par le haut. Mais là, on va fuir vers le collège voisin qui est un peu moins marginalisé, vers le privé s'il est disponible. Et donc, vous avez des processus de mise en marge d'appauvrissement. Alors, ça a deux effets. Et je m'arrête. Le premier, évidemment, est un effet scolaire que toutes les enquêtes internationales répètent sans cesse. Généralement, ça nous scandalise 3 semaines, et puis après...
Les enquêtes PISA.
On passe à autre chose, voilà. Mais, grosso modo, la France est quand même assez forte en termes d'inégalité scolaire. C'est-à-dire que les écarts sont considérables entre les meilleurs et les moins bons. Ce qui est quand même très choquant dans un pays dont l'imaginaire scolaire est celui de l'école commune, le modèle bureaucratique homogène, la même école pour tous, mais derrière ce décor, il y a évidemment un fractionnement considérable. Donc, c'est un premier effet scolaire, c'est-à-dire l'écart se creuse entre les meilleurs et les plus faibles. Et puis, je crois qu'il y a un effet civique, c'est-à-dire que maintenant, on peut avoir des jeunesses qui ne se croiseront jamais, qui ne se verront jamais. Depuis qu'on a fait ce livre, par exemple, sortait une enquête qui a été faite par Sébastien Rocher sur un bouquin qui s'appelle « Faire Nation », qui est très impressionnante, qui dit que quand vous avez des jeunes issus d'immigration qui sont minoritaires dans les établissements scolaires, ils se sentent français à 90%, ils se disent français à 90%, et quand ils sont majoritaires ou très nombreux, ils ne sont plus que la moitié d'entre eux, et un peu moins, quelquefois, à dire on est français, alors qu'ils le sont déjà depuis 2 générations. Donc c'est un enjeu scolaire...
Et civique.
Et de mon point de vue, enfin, de point de vue de Najat Vallaud-Belkacem aussi, il y a un enjeu civique, parce qu'il faut bien qu'une société comme la nôtre éduque ensemble sa jeunesse. Et évidemment, elle n'a pas le même niveau scolaire, mais au moins jusqu'à 16 ans, ça serait pas mal.
Faire société. Natacha Polony.
Oui, votre livre soulève des sujets qui sont des sujets absolument essentiels. Et en effet, c'est tragique de voir à quel point on a l'impression d'une classe politique qui ne prend pas conscience du caractère destructeur de cette ségrégation. Simplement, il y a quelque chose qui me travaille dans la façon dont ce sujet est abordé, parce que... je pense que ce qui ressort de vos propos là est le fait que la constitution de ghettos urbains a des conséquences dans la mesure sur les ghettos scolaires, dans la mesure où évidemment on n'envoie pas les élèves à une heure de transport pour être éduqués, et que du coup on se retrouve avec des ghettos urbains qui constituent des ghettos scolaires. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça ne se joue pas de la même manière quand on est dans une métropole, quand on est dans une zone périurbaine ou quand on est dans une zone rurale. Il y a dans Paris des endroits où l'indice de position sociale est quasiment plus élevé dans le public que dans le privé. Et d'autres où, au contraire, le privé sert à absorber ceux qui ne veulent pas aller dans le public. Donc la question est de savoir comment on maintient dans ces zones-là des classes moyennes dans le public et qu'elles ne fuient pas. Voilà. Mais la question que je me posais est celle-ci. Quel est le rôle de l'école, précisément, pour contrebalancer cela ? Je veux dire par là que, pour ce qui est du primaire, on est bien d'accord que, de toute façon, ça se joue par zone. Encore une fois, on va avoir du mal à mélanger les enfants. Comment on évite qu'ils arrivent au collège avec 25% d'enfants qui ne maîtrisent pas les compétences fondamentales en mathématiques et en calcul, ce qui fait que cette mécanique d'exclusion sociale que vous décrivez, et quand vous dites on va faire des groupes de niveau, ce sera forcément les plus pauvres et qui seront dans les groupes les plus faibles, va se mettre en place. Comment explique-t-on qu'une école, celle des années 50-60, que les gens mythifient, alors qu'elle triait socialement les élèves, elle le faisait structurellement, c'était assumé, arrivait...
Je l'ai bien connu.
Mais oui, et c'était monstrueux, et heureusement qu'on a changé cela. Mais elle arrivait finalement à tirer certains élèves, et elle crée moins d'inégalités sociales que celles d'aujourd'hui. Comment on explique ça ?
C'est tout ça.
François Dubé.
Tout ça est un peu compliqué, parce que je suis heureux de vous entendre ne pas relayer la nostalgie de l'école de naguère. Je me plais toujours à citer une enquête qui montre que, en 1955, un enfant d'ouvrier jugé excellent a beaucoup moins de chances d'entrer au lycée qu'un enfant de cadre jugé médiocre. Bon, c'est la classe sociale qui détermine. Donc, la plupart des gens ont des destins de classe qui ne sont pas liés à l'école. Les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers, les enfants de paysans deviennent paysans, les enfants de... Et seuls les enfants de bourgeois deviennent des bourgeois. Et évidemment, il y a les héros. Les héros qui, d'ailleurs, aujourd'hui, sont un style littéraire, ça s'appelle les transclasses.
Oui.
Les héros qui ont rejoint. Alors,
on
ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. C'est pas une légende. Ça a marché dans les années 60 et 70, quand vous avez une croissance des diplômes qui est forte, mais inférieure à la croissance des emplois qualifiés. C'est-à-dire que c'est très paradoxal. C'est-à-dire que vous avez plus de bacheliers, mais le bac est plus rentable en 1968 qu'il ne l'était en 1955, où il y avait quatre fois moins de bacheliers. Donc, on vit aussi dans cette... Le thème de l'ascenseur social, c'est ça que ça nous raconte. Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que plus le système scolaire se déploie, plus l'emprise du diplôme sur le destin des individus se renforce. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous n'échappez plus. Et y compris dans les catégories les plus favorisées, on n'est plus dans le monde de Mauriac et de Bourdieu. C'est-à-dire dans le monde où il suffit d'avoir des parents cultivés pour réussir à l'école. On est dans le monde de la compétition, du coaching, puisque la valeur du diplôme est toujours une valeur différentielle. Et donc, ce que vous décrivez au primaire ou à l'école maternelle, ça ne marche déjà plus. On va commencer à choisir la meilleure école.
Quand même pas. Enfin, ça, c'est ben, heureusement, c'est bien, quand même un peu rare. Ça, c'est vraiment les classes les plus bourgeoises dans les métropoles.
Mais ça commence toujours par en haut.
Mais je parle de ce que l'école primaire fait.
Alors,
pour
ce que l'école primaire faisait, c'est qu'elle donnait une sorte de socle, appelons ça comme ça. Le niveau d'orthographe était meilleur, mais on passait la moitié de son temps à faire l'orthographe, alors que tout à l'heure on évoquait l'idée qu'il fallait faire
de l'éducation
sexuelle et alimentaire, etc.
Ça améliore si le vocabulaire.
Mais c'est bien.
C'est vrai.
C'est bien, mais le participe passé, on souffre.
Non.
Donc
c'est plus le présent
on
avec le
plus,
sexe et l'alimentation.
On n'est plus dans ce monde-là. Et vous évoquiez la timidité politique là-dessus. Je crois qu'elle peut se comprendre pour un tas de raisons, mais c'est une bombe socialement. Parce que dans ce système, il y a des vainqueurs et des vaincus. Et si vous changez les règles du jeu, Les vainqueurs vous le feront payer. Ils diront chute du niveau, la France n'aura plus jamais de prix Nobel. Enfin bon, oui. Je ne vais pas donner de nom, mais c'est une rhétorique forte installée. Et on vous le fera payer. Parce qu'on veut garder les filières, les classes prépa, les classes européennes, etc., etc. Et de l'autre côté, il n'est pas certain que les classes populaires qui en bénéficieraient vous le rendront politiquement. Donc, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que Najat Vallaud-Belkacem dit « Arrêtons de passer par en haut en disant « la grande réforme, le grand machin, la rue Grenelle décide ». Essayons de régler le problème modestement, mais c'est pas si simple. » Là où il se pose, avec les acteurs concernés, les parents, les profs, les conseils départementaux, au fond, n'attendons pas que la société devienne vertueuse pour que l'école fonctionne bien. Essayons d'avoir la meilleure école possible dans le monde tel qu'il est. Et c'est pour ça que moi j'ai aimé faire ce livre, parce que c'est peut-être plus courageux que de s'indigner.
Gilles Finkelstein.
Alors, je crois que ce n'est pas seulement un sujet déterminant, c'est que, je le dis, l'essai est passionnant. Et c'est pas toujours le cas que l'association entre un chercheur et un responsable politique fonctionne. Et là, je trouve qu'elle est particulièrement féconde. C'est-à-dire qu'il y a des données, il y a des analyses qui permettent d'interpréter, de discuter ces données. Et il y a aussi, et je trouve que c'est l'apport substantiel de ce livre, des illustrations avec, un peu à rebours de ce que dit Natacha, non pas une classe politique qui ne prend pas conscience, mais qui essaye peut-être d'une manière différente de régler le problème, et c'est cette question de l'expérimentation qui fait une grande partie de ce livre et sur laquelle je voudrais vous interroger. Comment concrètement se prépare une expérimentation pour introduire davantage de mixité ? Comment elle se déploie ? Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle se déploie de manière très différente selon les territoires, et puisque maintenant on a quand même un peu de recul et une évaluation récente, comment est-ce que ça fonctionne ? Quels en sont les résultats ?
Alors, François Dubé.
Je suis pas le mieux placé, évidemment, pour raconter une histoire qui est pas la mienne, qui est celle de la ministre. Mais au fond, l'idée a été de dire, c'est parti des histoires qui se faisaient à Toulouse et ailleurs, de dire, on peut agir sur les territoires en demandant aux acteurs académiques, c'est-à-dire au rectorat, à l'inspection, de réunir les acteurs concernés, de leur dire il faut trouver des solutions. C'est plus possible de continuer de cette manière, en mobilisant tous ceux qui résistent a priori, c'est-à-dire les parents, parce qu'il faut convaincre les parents, et il faut convaincre les enseignants, parce que les enseignants des collèges défavorisés peuvent en souffrir, mais ceux qui sont dans des collèges favorisés peuvent ne pas avoir une envie folle de voir débarquer des élèves plus difficiles. Donc, ça a été très long. Par exemple, à Toulouse, ça a duré très très longtemps. À Toulouse, il y avait au Mirail deux collèges qui étaient vraiment des ghettos. Ils ont décidé de les casser et de dispatcher ces élèves dans des collèges de classe moyenne des environs de Toulouse, qu'il a fallu convaincre le fait que d'accueillir des enfants pauvres issus de l'immigration, c'était pas accueillir la barbarie. Et ça n'a pas été aussi simple. Bon, il a convaincre les enseignants, convaincre les parents du quartier défavorisé que leurs enfants avaient intérêt à prendre le bus plutôt que d'aller dans le collège le plus proche. Alors, il y a eu ce modèle à Toulouse, il y a eu d'autres modèles ailleurs, parce que, au fond, l'ambition de ce projet, c'est de dire, on donne un objectif, ce qu'il faut accroître la mixité sociale dans les établissements, sans renforcer la ségrégation scolaire, c'est-à-dire qu'il faut aussi refuser la solution qui consisterait à dire, au sein du collège, on ouvre trois filières d'élite réservées aux enfants blonds, pour dire les choses de manière
un peu caricaturale,
mais pas complètement fausse. Voilà. Sous prétexte...
Genre section européenne,
sous prétexte de section
LV1,
européenne,
etc.,
d'allemand, ouais. etc., ce qui était
latin,
le modèle.
Ouais.
Et donc, il faut trouver des équilibres et mobiliser les acteurs. Alors, ça n'a rien de révolutionnaire, de point de vue-là, mais je crois que dans la tradition scolaire française, c'est plutôt révolutionnaire. C'est plutôt révolutionnaire de dire, on part des problèmes tels qu'ils se posent, la puissance publique impose de le régler, donne les moyens pour qu'on le règle, et on n'aura pas toujours la même réponse partout.
Et ça donne quoi comme résultat?
Alors, les résultats, très rapidement, c'est que c'est plutôt bon en termes de niveau scolaire. Et alors, ce qui est décisif, évidemment, mais ça, toutes les recherches le montrent depuis très longtemps, c'est que le niveau des bons élèves ne faiblit pas. Ils ne sont pas tirés vers le bas. Ce qui est la terreur des parents, oui. Évidemment, c'est qu'ils vont être tirés vers le bas. Et surtout, le climat scolaire s'améliore considérablement, évidemment, puisque vous sortez de cette espèce d'acrimonie des élèves des collèges ghettoisés contre l'institution.
Oui, Natacha. C'est là où on va avoir peut-être, non pas un désaccord, mais où j'ai vraiment un étonnement. Lors de ma première question, en fait, c'était de vous interroger sur ce qui permettait, les méthodes qui allaient permettre aux primaires, déjà, de faire en sorte que les élèves arrivent dans de bonnes conditions. Et vous ne m'avez pas répondu sur ce sujet-là. Et ensuite, quand... ce qui donne l'impression que, finalement, il suffirait de mélanger les bons et les mauvais élèves pour que, par magie, ça fonctionne et que les bons élèves s'améliorent. Or, la France est le pays qui a les plus grandes difficultés de discipline en classe. Et vous le soulignez d'ailleurs, c'est évidemment dans les endroits les plus ségrégés et dans les ghettos que c'est le pire, puisque les élèves perdent jusqu'à un an de temps scolaire là-dessus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, j'y reviens, une question de méthode et une question de mélange? Et le grand paradoxe, vous venez de dire, il faut éviter dans les établissements de créer des filières, et Najat Vallaud-Belkacem a voulu éviter ça, en effet, en supprimant le latin, le grec...
Supprimer les classes de latin, c'est
pas l'option. Ça a fait quasiment disparaître l'enseignement de grec, de latin, etc. Or, l'immense paradoxe, c'est que vous citez, page 75 du livre, les expérimentations du maire de Montpellier, qui, au contraire, et vous le dites, crée des filières, et ces filières spécifiques permettent de recréer de la mixité sociale. Est-ce que, en fait, il ne faut pas développer ces filières dans les établissements difficiles, justement, pour permettre ça? Et ensuite, quel est le rôle des méthodes
pour que les professeurs
puissent gérer enfin l'hétérogénéité des classes?
François Dubé, c'est l'action de l'échelle. À quelle échelle doit-on faire de la mixité? À l'échelle de l'établissement ou des classes?
Alors, tout l'enjeu, c'est que, bien évidemment, vous pouvez créer des filières ou des disciplines qui attirent un public pour créer de la mixité. Tout ça se joue au centimètre. C'est-à-dire qu'il faut évidemment éviter de dire « je crée une enclave » au sein du collège Vavosé, parce que c'est même plus gérable de ce point de vue-là, du point de vue de la discipline, du climat scolaire, etc. Donc, vous êtes obligé d'arbitrer entre mixité sociale et mixité scolaire. Et tout le problème, c'est de dire aux acteurs sociaux, faites ça au mieux, sans creuser les difficultés. Mais on n'est pas dans un monde parfait. Je veux dire, il faut jouer sur ces deux leviers. Alors, vous posez une question qu'on ne traite pas dans le livre, alors, qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est qu'il y a effectivement en France un problème, de mon point de vue, majeur. Il y a deux problèmes. Le problème de la formation des enseignants. Alors, je ne fais pas du tout partie de ceux qui tapent sur les enseignants. Mais je veux dire que nous savons que les pays qui s'en sortent bien, le Canada, la Finlande, etc., etc., je laisse de côté Singapour parce que je ne suis pas certain que nous ayons envie que nos enfants soient élevés sur le mode singapourien. Mais on forme les enseignants comme des professionnels. On ne dit pas aux gens, vous avez un niveau académique et vous le convertissez au bout de quelques semaines de stage en métier. C'est un métier. Dans le monde scolaire que vous évoquiez, un enseignant savant, ça suffisait. Aujourd'hui, qu'il soit savant, c'est mieux, mais c'est vraiment pas
décisif. Ce serait mieux, mais ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas.
En plus, condition nécessaire, mais pas suffisante.
Il n'est pas certain qu'il soit savant. Non. Donc, voilà. Donc, il y a un enjeu considérable. Moi, je suis très frappé, d'ailleurs. Il est quand même évoqué de plus en plus, le modèle de formation, de recrutement des enseignants est décisif. Et puis la seconde affaire, c'est qu'on sait que l'efficacité d'un établissement, c'est la cohésion de l'équipe éducative. Et que là, nous avons sans doute un problème, c'est que nous sommes le seul pays... Alors, quand je dis ça, on apparaît... C'est moi qui le dis, c'est pas forcément Najat Vallaud-Belkacem, mais on apparaît comme des libéraux fous. Oui, on est quand même le seul pays dans lequel ce ne sont pas les établissements qui recrutent les enseignants. Je veux dire, des seuls pays où vous êtes affectés, etc. Donc, on a à la fois une injonction, créer des équipes éducatives, mais tous les mécanismes institutionnels, au fond, que la création de cette équipe est plus un miracle qu'une nécessité fonctionnelle. Je ne sais pas si ce que je dis est à peu près clair.
C'est très clair et merci beaucoup. Merci François Dubé d'avoir été notre invité pour ce grand face-à-face. Votre dernier livre coécrit avec Najat Vallaud-Belkacem, Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme. Il ouvre plein de questions, plein de champs, d'avoir encore plein de questions à vous poser, bah, ça donne envie de vous lire. Merci Gilles, merci Natacha, merci à l'équipe du Grand Face à Face, Mathilde Clat à la préparation de l'émission, Marie Merrier pour sa réalisation et aujourd'hui Florian Dorimini à la technique.